Bugatti. De Bugatti. VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde aujourd'hui, bienvenue dans cette édition du jeudi 16 novembre 2023. Avec vous, Eric Manirakidza, voici d'abord le sommaire. Attaque meurtrière contre des journalistes au Mali, un mort, un blessé, des disparus sur l'axe Asongo-Gao dans le nord et centre du pays. Reporters sans frontières s'alarme de cette nouvelle tragédie. Retour de l'armée malienne à Kidal, espoir de stabilité renouvelé dans la région selon les habitants d'Ogao.
C'est un sentiment de satisfaction. On est vraiment content de ce que l'armée malienne a eu à faire à Kidal. Ça fait 11 ans ou 10 ans d'absence. On est fiers de notre armée.
Le couvre-feu instauré à Antananarivo avant le premier tour de la présidentielle dans un contexte tendu. Nous aurons une analyse d'un journaliste politique. Une série de disparitions d'enfants en Guinée équatoriale suscite l'horreur. Plus de 12 victimes, certains retrouvés mutilés, d'autres toujours disparus.
Si nous avons eu la possibilité de grandir et d'être des gens adultes, des gens de société, des gens bien, je pense que nous devons laisser à nos enfants pouvoir jouir de cette situation, de jouir de leur jeunesse.
Le Congrès américain évite le shutdown après l'adoption d'une rallonge budgétaire. Joe Biden assure qu'il pourra parler à Xi Jinping directement et immédiatement en cas de crise. Biden parle d'une réunion constructive et productive avec son homologue chinois. Dans 10 minutes, vous suivrez l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Dans le nord et centre du Mali, le travail des journalistes devient de plus en plus périlleux. Le mardi 7 novembre 2023, des professionnels des médias ont été pris pour cible sur la route reliant Asongo à Gao. Cette attaque a causé un décès, un blessé et des personnes portées disparues. Des opérations de recherche sont en cours pour les retrouver. Et notre correspondant à Mopti, Mamoudou Bokoum, nous donne plus de détails.
Cette attaque contre le véhicule des hommes des médias est survenue entre Asongo et Gao. Une attaque au cours de laquelle Abdul Aziz Djibrila, le directeur de la radio Nata de l'Abezanga, a trouvé la mort. Aruna Atino, un des animateurs de la radio Alafia d'Asongo, lui a été blessé. Ce dernier, qui était admis à l'hôpital de Gao, est rentré chez lui. Quant au directeur de la radio Coton, Salek Agzidou, et son agent Moustaphe Koné, ils ont été pris en otage. À date, ils sont toujours pas de retour selon des sources locales à Asongo. Les ravisseurs réclament une rançon pour les libérer. Face à cette situation, des radios de la région de Gao et de Menaka ont suspendu leur programme pendant quelques jours. Des organisations professionnelles des médias, dans leur grande majorité au Mali, ont condamné chacune à cet acte qu'elles qualifient d'odieux et barbare. Il faut rappeler que les hommes de médias font l'objet d'enlèvements et d'assassinats ces temps-ci. Le 26 octobre dernier, un animateur de radio a été tué à Nara par des hommes armés non encore identifiés. Mamoudou Bokouma Mopti pour VOA Afrique.
Reporters sans frontières condamne le meurtre du journaliste de la radio communautaire Nata Abdelaziz Djibrila et l'enlèvement du directeur et de l'animateur de radio Coton FM. Les journalistes locaux au nord Mali sont aujourd'hui en première ligne dans le contexte sécuritaire gravement dégradé. Leur protection est un enjeu majeur, dit RSF. Ce meurtre et ces enlèvements se sont déroulés dans un contexte sécuritaire très dégradé pour les journalistes au nord du Mali, exacerbé par l'offensive militaire à Kidal, à l'extrême nord du pays, à 350 km de la ville d'Ogao. Elle est contrôlée depuis plus de 10 ans par des groupes armés. L'armée malienne a annoncé avoir repris le contrôle de la ville le 14 novembre. Cette guerre entre l'armée malienne et la rébellion à dominante Touareg se joue également sur le terrain de l'information. À l'ombre des combats sur le terrain, les deux camps s'affrontent aussi sur les réseaux sociaux, notamment X, et Twitter, TikTok et Facebook, au travers de comptes de soutien dont beaucoup créent récemment sur fond de désinformation. Sur X, c'est récit contre récit. Des comptes de soutien aux rebelles ont publié, par exemple, un faux tweet au nom du Premier ministre malien Choguel Kokala Maïga. Chaque camp donne sa version de ce qui se passe sur le terrain et décrédibilise celle de l'adversaire qu'il présente comme de la propagande, explique Sédic Abba, journaliste et analyste politique nigérien spécialisé sur le Sahel. À Madagascar, 11 millions d'inscrits sont appelés aux urnes aujourd'hui pour choisir leur prochain président. Le préfet de la capitale a imposé un couvre-feu nocturne à Antananarivo. Rosine Munezer.
13 candidats sont en lice pour le scrutin, dont le président sortant André Rajoel, 49 ans. 10 candidats de l'opposition rassemblés dans un collectif ont appelé les électeurs à ne pas voter. Les membres du collectif ont refusé de faire campagne alors que le président sortant parie sur une victoire dès le premier tour. Les opposants contestent l'éligibilité de Rajoel après un récent scandale autour de sa double nationalité et réclament la suspension du processus électoral. Ils dénoncent un coup d'État institutionnel pour assurer sa réélection. Après déjà un mois et demi de manifestations dans les rues d'Antananarivo, à l'appel de l'opposition, le préfet de la capitale, le général Angelo Ravelonarive, a dénoncé mercredi des actes de sabotage et a instauré un couvre-feu nocturne avant le premier tour de la présidentielle. Réclamant une intervention de la communauté internationale, le collectif d'opposants malgaches a annoncé son intention de poursuivre les manifestations.
Au Liberia, la commission électorale a commencé mercredi à rendre compte du dépouillement des bulletins du second tour de la présidentielle. Ces premiers résultats très partiels donnent une très courte avance à l'ex-vice-président Joseph Boakai sur le sortant l'ex-star du football George Weah.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président Joe Biden a rencontré hier son homologue chinois Xi Jinping pour la première fois depuis un an lors d'un sommet bilatéral à San Francisco, ici aux États-Unis, en marge du forum de coopération économique pour l'Asie-Pacifique, APEC. Yacouba Ouédraogo.
Le sommet de 4 heures, tenu dans une résidence cossue à une quarantaine de kilomètres de San Francisco, a été constructif et productif selon Joe Biden. Le président américain a assuré que les deux hommes pourraient désormais décrocher leur téléphone et se parler directement et immédiatement en cas de crise. Le président Xi a accepté de prendre, selon les Américains, des mesures conséquentes pour réduire considérablement les approvisionnements en composants de fentanyl. Cet opioïde entraîne des dizaines de milliers de décès par overdose chaque année aux États-Unis. Washington et Pékin ont aussi décidé de mobiliser un groupe d'experts pour discuter des risques liés à l'intelligence artificielle. Le statut de Taïwan reste une source de tension. Joe Biden a demandé à Xi de respecter le processus électoral et réaffirmer la ligne des États-Unis. Pas de soutien à l'indépendance, mais une opposition ferme à toute tentative de prise de contrôle de l'île par la force. Le président chinois a de son côté exhorté son homologue américain à cesser d'armer Taïwan, arguant que la réunification est inévitable, selon une source diplomatique chinoise. Enfin, Washington dit attendre aussi de la Russie, proche partenaire de l'Iran et de la Russie, qu'elle n'envenime pas le conflit entre Israël et le Hamas et la guerre en Ukraine.
Le Congrès américain a approuvé hier soir une rallonge du budget de l'État fédéral dans une rare démonstration d'unité entre les partis, empêchant la paralysie dans 3 jours de l'administration américaine à l'approche des fêtes de Thanksgiving. Le président américain Joe Biden s'est dit mercredi relativement optimiste quant à une prochaine libération d'otages détenus par le Hamas et a assuré avoir demandé à Israël d'être extrêmement prudent dans la conduite de ses opérations dans le principal hôpital de Gaza. Nous avons bénéficié d'une grande coopération de la part des Qataris, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à l'issue d'une rencontre en Californie avec le président chinois Xi Jinping. Environ 240 personnes ont été enlevées le jour de l'attaque du Hamas le 7 octobre, selon les autorités israéliennes. Un hôpital du plus grand bidonville de Port-au-Prince, la capitale de Haïti, a été entièrement évacué mercredi après que de violents affrontements entre gangs ont éclaté à ses portes. Joyce Ulis, fondateur et directeur du centre hospitalier de Fontaine, a réfuté des informations selon lesquelles des membres de gangs seraient entrés dans ce centre médical et auraient pris en otage des patients. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco, présentée ce matin par Nanit Talani.
La pêche artisanale sénégalaise est en crise en raison des pratiques de pêche destructrices de la flotte chalutière, alerte la Fondation EJF. Par exemple, 88% des pêcheurs, 93% des transformatrices et 100% des marieurs disent avoir un accès plus limité aux poissons pour leur propre consommation. Le rapport s'appuie sur des entretiens menés au Sénégal avec ces communautés de pêcheurs entre 2022 et 2023. La Namibie veut profiter de sa collaboration avec l'Union européenne pour développer les projets d'infrastructure à grande échelle pour soutenir le traitement local des minerais. L'année dernière, la Namibie est devenue le premier pays africain à signer un accord avec l'Union européenne pour lui fournir de l'hydrogène vert et des minéraux nécessaires aux technologies d'énergie propre. Pour terminer, les créanciers officiels de la Zambie ont rejeté l'accord qu'elle a conclu avec ses détenteurs d'obligations internationales car il n'offre pas un allègement de la dette comparable à ce que eux proposent. L'annonce a déclenché une forte hausse des trois obligations en circulation de Lusaka, suscitant les craintes que le défaut de paiement de la Zambie puisse se prolonger. Pour Pékin, tous les créanciers doivent offrir un allègement de la dette conformément aux principes de l'action commune et du fardeau équitable.
Et sans transition, nous retrouvons Yacouba Ouédraogo dans sa page sport. Bonjour Yacouba.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Le Maroc et le Mali visent les huitièmes de finale du mondial des moins de 17 ans en Indonésie.
Oui, après leur victoire inaugurale 2-0 contre le Panama, les Lionceux de l'Atlas se mesurent au pays hôte, l'Indonésie, pour leur deuxième sortie aujourd'hui dans le groupe A. Une victoire qualifierait le Maroc pour les huitièmes de finale, tout comme le Mali qui affronte aujourd'hui le Canada. Par contre, le Burkina Faso voit cette étape des huitièmes s'éloigner après sa défaite hier, 2-1 face aux États-Unis, la deuxième défaite consécutive des Burkinabés après un revers 3-0 face à la France. Sur les quatre représentants africains, pour l'heure, seul le Sénégal est qualifié pour les huitièmes de finale, en attendant son troisième match contre le Japon vendredi.
Débuté hier, les rencontres de la première journée des éliminatoires du Mondial 2026 se poursuivent.
8 matchs sont au programme aujourd'hui, marquant l'entrée en lice de certains cadors. L'Égypte accueille Djibouti dans le groupe A, le Nigeria reçoit le Lesotho dans la poule C. D'autres rencontres à suivre incluent Algérie-Somalie, Soudan-Togo, Gabon-Kenya, Burundi-Gambie, Botswana-Mozambique et Cap-Vert-Angola. Hier, l'Éthiopie et la Sierra Leone se sont séparés sur un score nul de 0 but partout. Match nul 0-0 également entre le Rwanda et le Zimbabwe. Cependant, les Léopards de la RDC ont bien débuté en s'imposant 2-0 face à la Mauritanie. La Guinée équatoriale l'a aussi remporté 1-0 face à la Namibie. A noter que les rencontres de la première et de la deuxième journée des éliminatoires de cette Coupe du Monde 2026 se déroulent du mercredi 15 au mardi 21 novembre.
Et avant de nous quitter ici en NBA, Draymond Green est suspendu, n'est-ce pas, Yacouba?
Les liens forts des Golden State Warriors, expulsés pour un étranglement sur le français Rudy Gobert de Minnesota mardi, est suspendu pour 5 matchs par la NBA. La Ligue nord-américaine de basketball lui reproche d'avoir attrapé le pivot de Minnesota Rudy Gobert par le cou de façon dangereuse et antisportive. Quadruple champion NBA avec les Warriors, cette suspension éloigne Draymond Green des terrains jusqu'au 28 novembre. Le communiqué précise que la durée de la suspension est en partie due au comportement antisportif passé de Green, habitué à ses incidents au cours de ses 11 ans de carrière NBA, incluant par exemple une altercation avec un coéquipier lors d'un entraînement l'an dernier, Klay Thompson des Golden State Warriors et Jaden McDaniels de Minnesota, également exclus lors de l'incident mardi, ont été coupés de $25,000 d'amende, de même que Gobert, pour avoir attrapé Thompson en essayant de séparer les deux hommes. Gobert a dénoncé après le match une attaque délibérée et un comportement inacceptable.
C'était les sports avec Yakuba Ouédraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manratiza de retour avec vous pour les dossiers du jour. L'armée malienne, avec le soutien de ses partenaires russes, a pris le contrôle de la ville de Kidal ce mardi 14 novembre 2023. Après 10 ans d'absence dans la région, les habitants de la région de Gao, ayant vécu les horreurs de la rébellion de 2012, ont accueilli chaleureusement cette bonne nouvelle. Ils encouragent vivement le gouvernement de la transition à redoubler d'efforts pour stabiliser le Mali. De Gao, la correspondance est de Boubacar Touré.
Sont-ils capables ou pas de reprendre la ville stratégique de Kidal aux combattants du CSP? La réponse à cette question a été donnée. Après des jours de combats intenses dans la zone, les soldats maliens ont fait leur entrée dans la ville rebelle de Kidal. C'est un tournant dans le Mali-Koura que proposent les autorités de la transition. Nous avons tendu notre micro dans les rues de Gao. Voici la réaction des personnes interrogées.
Si tous les Maliens sont comme moi, vraiment c'est un jour de satisfaction, un jour de plaisir. Et c'est ce qu'on attend justement de notre armée. Donc vraiment une grande satisfaction du fait que vraiment l'armée soit rentrée à Kidal.
Plus de 10 ans, voire 11 ans que l'armée est totalement, si on peut le dire, absente au niveau de la ville de Kidal. Donc aujourd'hui, si elle arrive à prendre la ville de Kidal, franchement, les mots me manquent pour exprimer ma joie grâce aux 5 colonels.
Si l'armée a été vraiment à la hauteur, ça veut dire que le peuple a accepté beaucoup de choses. Le peuple a se sacrifié depuis ce temps. Ces colonels, vraiment, coup de chapeau, puisque on a compris qu'au sein même de l'armée, vraiment une réorientation de la mentalité. Les gens, les hommes ont changé de mentalité, les hommes sont devenus des nationalistes, ils ont accepté ce sacrifice. Parce que sans sacrifice, personne ne pourrait le faire. Sans sacrifice, personne ne pourrait y arriver.
C'est un sentiment de satisfaction. On est vraiment content de ce que l'armée malienne a eu à faire à Kidal. Ça fait 11 ans ou 10 ans d'absence. On est fiers de notre armée. On est très content de notre armée malienne. Vraiment, on remercie beaucoup la Russie, on remercie beaucoup notre président Assimi Goïta, on remercie beaucoup les 5 colonels de l'armée malienne.
Pour toutes les personnes interrogées, la prise de Kidal est une étape importante dans le processus de réconciliation. Mais attention, beaucoup reste à faire pour stabiliser le Mali.
Kidal pour moi, pour que cette paix à laquelle nous aspirons soit et demain doit être transformée en une région militaire où tout est géré par nos forces armées et de sécurité. Pour occuper chaque centimètre carré du territoire, pas de la ville de Kidal, mais de la région de Kidal.
Que le Mali reste toujours aux aguets. Que le Mali reste toujours prudent, parce que la guerre ne fait que commencer.
Et nous invitons nos autorités de la transition, plus particulièrement les autorités militaires, à prendre toutes les dispositions pour vraiment s'occuper, veiller et protéger la population et leurs biens. Surtout ceux qui n'ont pas fui, ceux qui ont cru à leur venir, ceux qui ont cru que la montée en puissance de l'armée, ce n'était pas des vrais mots, c'était des réalités de terrain. Et ceux qui ont quitté le pays, ceux qui ont fui parce qu'ils ont compris qu'ils n'ont pas raison, nous pensons qu'aujourd'hui, quelle qu'en soit la situation, nous sommes tous des Maliens. Le retour au bercail n'est pas interdit.
La paix, elle doit être active. Il faut que les populations s'asseyent encore pour parler. Il faut éviter l'amalgame. Et la paix, ce n'est pas seulement les armes, comme je l'ai dit, mais il faut travailler, il faut aller vers le développement maintenant. Je ne vous dis pas, les Maliens ont crié, particulièrement ici dans la région. Tous les produits sont allés à un prix très exorbitant. Il faut travailler à ramener tout ça à la séance. C'est ça qu'on peut amener la paix. Parce que quand on a faim aussi, on est tenté par beaucoup de choses. On est tenté par le diable. Quand on a soif, on est tenté par le diable. Donc il faut aller apaiser ces mots qui peuvent détruire la société.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
À Madagascar, les autorités ont instauré mercredi un couvre-feu dans la capitale Antananarivo applicable la nuit précédant le premier tour de la présidentielle. Ce scrutin se déroule dans un contexte tendu avec un appel au boycott de leader principal majeur, majeur de l'opposition. Pour une analyse approfondie de la situation, Mohamedou Oumfa a joint Tilavini Randriamanga, journaliste politique au quotidien Les Nouvelles.
La tension s'explique par il y a l'opposition qui conteste la candidature du président sortant à l'heure actuelle, qui jouit d'une double nationalité, et la CC a quand même validé cette candidature, et depuis l'opposition mène une manifestation face à ce qu'il considère comme une sorte d'illégalité de poids de mesure dans le processus qui selon eux a été organisé en faveur du candidat. Et donc, c'est la raison des manifestations qui ont eu lieu depuis près d'un mois. Et ils affirment qu'ils n'ont plus confiance en les processus qui se déroulent actuellement.
Il faut dire que Madagascar est coutumier de telles manifestations. Mais cette fois-ci, les manifestations surviennent avant l'élection.
Oui, c'est ça. Les manifestations surviennent avant les élections. Mais avant, c'était des manifestations post-électorales. Mais maintenant, c'est différent.
La plateforme de l'opposition réunissant une dizaine de candidats ont appelé à ne pas aller voter. Comment comprendre cette stratégie et quelle est sa pertinence?
Cette stratégie, c'est surtout pour décrédibiliser le processus qui, selon eux, est entaché d'irrégularité. Et c'est donc, en quelque sorte, votre sanction, c'est pour décrédibiliser le processus électoral. Et donc, ils ont invité leurs partisans à ne pas participer au vote.
On s'achemine donc visiblement vers une réélection du président sortant. Pourra-t-il vraiment gouverner face à toute cette contestation, l'armée n'étant jamais loin de la scène politique comme on l'a vu en 2009?
Ça aura un impact sur la légitimité du président qui sera réélu. Ça a surtout un impact sur la stabilité politique après, puisque il arrive que les candidats mal élus se trouvent dans une sorte d'atmosphère d'instabilité après sa réélection, comme c'était le cas pour l'ancien président Marc Ravalman en 2006. Il n'a pas pu rester au pouvoir pendant plus de 3 ans avant d'être renversé.
L'élection a lieu demain. Est-ce qu'un consensus est encore possible selon vous?
Je pense qu'il n'y a plus de consensus. Les deux partis campent sur leur position. Il y a l'opposition qui demande la suspension du processus électoral et de l'autre côté, les gouvernements et les candidats qui se sont engagés dans le processus demandent à ce que l'élection ait lieu à la date convenue, c'est-à-dire le 16 novembre.
L'élection se déroule aujourd'hui. C'était Tilavini Randriamanga, journaliste politique au quotidien Les Nouvelles. Au Nigeria, l'état de Benoué abrite plus de 2 millions de réfugiés, dont environ 10 000 en provenance du Cameroun voisin. Cette crise engendre une hausse de l'insécurité. Le gouverneur a rencontré le chef de l'armée nigériane pour demander de l'aide en vue de restaurer la paix, permettant ainsi aux agriculteurs de retourner travailler dans leurs champs. Notre correspondant au Nigeria, Gilbert Tamba, s'est rendu dans l'un des centres de déplacés en périphérie de Makurdi, la capitale du Benoué. Voici son reportage.
Dans le camp des déplacés de Daoudou, près de Makurdi, la capitale de l'état de Benoué, vivent quelques 20 000 déplacés internes. La montée des violences et meurtres ont poussé plusieurs agriculteurs, craignant pour leur vie, à quitter leurs terres. Beaucoup ont été tués dans leurs champs et leurs villages. Janet Aondongwa vit dans ces camps depuis plus de 10 années.
Nous étions à la maison, nous sommes allés au champ quand nous avons vu les éleveurs Peul arriver et ils ont commencé à tirer et ont tué un homme par balle. Nous avons couru pour revenir au village pensant que c'était fini, mais ils sont venus au village et ils ont tué beaucoup de personnes cette nuit-là. Mais nous avons eu la chance de nous échapper et nous retrouver dans ce camp de déplacés.
On le sait, Omawa c'est Hidoué.
Dans ces camps de déplacés de Daoudou, la fatigue et le désespoir sont visibles sur les visages de toutes les femmes, les filles, les garçons et les pères de famille désorientés par ce qui s'est passé dans leur village avant de se retrouver dans ces camps. Philomena Tewasi, femme déplacée.
Nous ne sommes pas à l'aise ici, mais nous n'avons pas le choix car nous ne pouvons pas rentrer chez nous où notre sécurité n'est pas garantie. Si nous rentrons sans sécurité, nous serons à nouveau attaqués.
Ils ont été chassés de leur foyer par des affrontements entre éleveurs et agriculteurs et contraints de vivre dans des conditions très difficiles. Fabien Gwenga, président du camp de Daoudou, et Festos Tenenge, homme déplacé.
Nous sommes dans ce camp depuis trop longtemps. Je veux rentrer chez moi dans mon village. Rester dans ce camp nous soumet à beaucoup de contraintes. Je ne veux plus rester ici. Nous sommes restés trop longtemps dans ce camp.
La vie n'est pas facile dans ce camp. Même se nourrir est difficile. Certains de nos enfants ne sont pas retournés à l'école à cause de cette situation. Certains ont fini l'école primaire, mais ont eu du mal à continuer leurs études. Cette situation a conduit aussi au mariage précoce de certaines filles et au trafic d'êtres humains.
Le gouvernement de l'État de Benue plaide auprès des agences de sécurité pour permettre le retour des déplacés. Mais dans quelle mesure cela va contribuer à réduire la pauvreté au moment où le Nigeria subit durement les effets de la suppression des subventions sur le carburant qui a quadruplé les coûts de transport et a affecté les prix des produits de première nécessité? Gilbert Tamba pour VOA Afrique à Makourdish dans l'état de Benue.
En Guinée équatoriale, le phénomène de disparition d'enfants fait les gros titres. À peine deux jours s'écoulent sans qu'un mineur ne disparaisse. Plus de 12 enfants ont été signalés manquants, certains retrouvés sans vie, mutilés et jetés dans des puits, tandis que d'autres demeurent toujours introuvables. Plus de détails avec notre correspondant à Malabo, Samuel Obiang Mbana.
Le phénomène est nouveau dans le pays et préoccupe au plus Angéline Ntama, une enseignante, ne cache pas son indignation.
Là où les enfants sont victimes des enlèvements de grandes personnes, et mon point de vue est que c'est cruel, c'est criminel, c'est inhumain, parce que si nous avons eu la possibilité de grandir et d'être des gens adultes, des gens de société, des gens bien, je pense que nous devons laisser à nos enfants pouvoir jouir de cette situation, jouir de leur jeunesse et qu'ils puissent devenir des grandes personnes. Enlever un enfant, c'est détruire toute une famille. Je vais vous donner ma pensée. Déjà, comme humaine, c'est inhumain. Et comme chrétienne, c'est très dangereux. L'enfer est réel. Tout ce qu'on fait de mal, on le paye. Tôt ou tard, vous allez le payer.
Les enlèvements d'enfants suscitent beaucoup de panique car l'année scolaire vient de commencer. 13 disparitions d'enfants ont été signalées. Certains corps ont été retrouvés mutilés dans des puits. Pour Oscar Bengomo, professeur de lycée, la disparition d'un mineur plonge les familles dans la désolation.
Notre société est affectée par ce phénomène qui réellement deja.
Notre société est affectée par ce phénomène qui réellement a plongé dans la désolation les uns des parents et la famille. Le peu d'enfants qu'on a découvert dernièrement, certains ont des organes coupés. Ce phénomène est déjà là et affecte drastiquement la société car les parents pensent qu'ils vivent avec la peur.
Paisa, un des défenseurs des droits de l'homme, estime que ces meurtres sont à des fins de rituels.
Parece que la desaparición de niños tendría algo que
ver. Il semblerait que la disparition des enfants soit liée à des sacrifices rituels pour accéder à des postes politiques, quitte à tuer des enfants qui sont innocents.
A inocentes, a niños que no tienen absolutamente nada que ver.
Face à la montée de ce phénomène, le vice-président chargé de la défense et de la sécurité Théodore Ngemobian est monté, a mis en alerte les forces de l'ordre pour traquer les ravisseurs et commanditaires. Il a interdit les déplacements d'enfants durant les heures nocturnes et la fermeture des puits. Un ordre de voyage pour les mineurs, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, est maintenant requis, etc. Pour Kotine Loyeto, défenseur des droits de l'homme, avec le manque d'état de droit dans ce pays, l'impunité a fait son lit.
En Guinée équatoriale, non existe la force de la loi. La fuerza de la
loi. En Guinée équatoriale, la force de la loi n'existe pas. Un défenseur des droits de l'homme, disons que dans ce pays, c'est l'état de non-droit qui est la norme. Et là où il n'y a pas de droit, c'est toujours la porte ouverte à toutes sortes de violations et à l'impunité.
La classe de violation et d'impunité.
La disparition d'enfants continue et pour le moment, aucun commanditaire ni ravisseur n'a été interpellé. Samuel Obiambana Malabo pour VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Eric Manirakidza, la mise en onde, Lionel Mounania-Garima. Un grand merci à l'équipe et à toute l'équipe de rédaction et de production. Rendez-vous sur votre site internet voafrique.com et notre page Facebook, YouTube, X et Instagram pour rien suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes.